Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour évoquer le monde du football. Avec ses vice-champions du monde en chute libre, la Croatie a été humiliée hier soir en Espagne. Modric, Rakitic et tous leurs camarades présents en Russie pourtant n'ont pas pu contenir les vagues de la Roja, encaissant 6 buts d'une équipe espagnole en pleine confiance déjà avec son nouveau sélectionneur et en dépit d'un rendez-vous manqué en Russie lors de la Coupe du Monde. Comment comprendre cette déroute de la Vatreni et alors que l'avenir semble sourire à la nouvelle génération espagnole et aussi à Luis Enrique. Olé ! La réponse de la Fédération du Niger aux critiques des joueurs qui ont eu la sensation d'être abandonnés en rase campagne, abandonnés en Égypte et malheureusement d'avoir été la risée de leurs supporters d'autres pays et du Niger bien sûr en se laissant corriger par l'équipe d'Égypte et par Mohamed Salah, un sévère là aussi 6-0. La réponse d'ici quelques secondes du président de la Fédération. Mais avant, je vous présente nos invités du jour dans notre studio. Karine Galli, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
La femme qui a vu les champions du monde de si près et même la Coupe du Monde, c'était une fausse.
Mais bien sûr que c'était une fausse.
Elle avait l'air un peu grande et un peu légère.
Oui, oui, oui.
La vraie, on la garde dans un coffre-fort, c'est
oui,
ça.
Oui, finalement, la vraie, elle est sortie tous les 4 ans pendant une demi-heure, voire une heure,
ah oui,
et après, on voit
elle
que des fausses.
Ouais.
Enfin, des répliques.
La victoire est vraie quand même, non?
La victoire est vraie. La victoire est vraie et la fête était belle.
Ouf. Eric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Notre ancien joueur du Paris Saint-Germain, notamment. Et puis, Salim Bongali, bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Quand vous avez dit que Karine avait vu les champions du monde, d'un côté, dans un instant, je me suis dit, elle a vu les Anglais, c'est vrai, puisqu'elle était en Angleterre, donc elle a vu les champions du monde anglais.
Vous avez rêvé là.
Ouais, j'ai
C'était
rêvé.
Un mirage.
J'ai vu une défaite anglaise.
Ouais, là, c'est, comme d'habitude.
Notre camarade RMC Sport, vous le voyez, toujours passionné par le foot anglais. Nous, on pensait un peu aux Français à la Coupe du Monde. Christophe Jousset, donc, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. Le SOS des joueurs du MENA. Vous l'avez entendu hier dans Radio Foot International, un appel touchant à la compréhension de joueurs de l'équipe nationale du Niger qui venaient d'encaisser 6 buts à Alexandrie. Ils s'exprimaient eux-mêmes à travers une vidéo. Car pour les joueurs, tous solidaires, on le voit à l'image, et bien l'explication en tout cas ils attribuent ce mauvais résultat au manque de moyens, l'absence de conditions de travail dignes pour leur permettre de disputer des matchs internationaux. Donc manque de moyens pour leur déplacement, dans leur hébergement, dans la nourriture. Pas d'indemnisation non plus depuis de nombreux mois pour leurs prestations sous les couleurs orange du MENA. Le président de la Fédération du Niger, de la FENIFOOT, a donc accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Bonjour, colonel Pelé.
Bonjour, Annie.
Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot aujourd'hui. Et j'ai une première question, colonel. Est-ce que cette vidéo hier vous a surpris et vous a touché?
Oui, bien sûr, écoutez, parce qu'il s'agit quand même de l'image de notre pays et l'image de tout ce qu'il y a comme fierté pour nous. Je trouve que si je peux comprendre effectivement qu'ils aient eu la déroute en question, les résultats du match les aient choqués. Parce que moi je mets ça sur ce crédit-là, hein. Je pense que c'est simplement le score lourd qu'ils ont pris qui a dû les vexer aussi, et les conditions qu'ils ont décrites par ailleurs, le non-paiement des primes que je concède, cela ne leur donne pas quand même le droit de vilipender leur pays de cette sorte-là. Il y a d'autres manières de le faire. Je pourrais comprendre qu'ils puissent dire qu'on ne paye pas les primes, qu'ils ont perdu sur un score lourd parce que les conditions qui ne sont pas réunies, ce que nous avons toujours nous-mêmes décrié, qu'ils rentrent au Niger et qu'ils disent qu'ils ne jouent pas les autres matchs qu'ils veulent. Pour l'histoire, comme vous l'avez dit vous-même dans vos commentaires, c'est un phénomène qui est souvent arrivé dans beaucoup de pays africains. Mais est-ce que les joueurs, pour autant, ont fait des vidéos pour envoyer partout? Les joueurs peuvent manifester, effectivement, réclamer leur style.
Mais c'est sans doute la manière de communiquer actuellement plutôt que de donner une interview aux médias du Niger, d'Égypte ou même à RFI, colonel.
Oui,
parce que vous avez l'air de dire qu'ils ont raison. Ils ont raison, c'est ça,
c'est-à-dire. C'est une manière très maladroite parce qu'il y a des contre-vérités qu'ils disent dedans. Quand ils disent qu'ils ne mangent que des haricots, ça fait archi faux. Nous sommes une fédération qui est cité en exemple aujourd'hui par rapport aux réalisations que nous avons faites avec les investissements de la FIFA et autres. Les conditions d'hébergement et d'alimentation du Centre technique national de la Fédération nigérienne de football, poser la question à tous les acteurs qui sont actuellement en compétition au Niger pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, ils vous le diront. Ce que je ne veux pas, parce que cette vidéo donne et permet aux gens de donner un cliché stéréotypé que vous nous donnez tous en Afrique. On pense qu'en Afrique, c'est comme si nous sommes des prédateurs entiers, les présidents de fédérations accrochés à des arbres, qui dès que des fonds FIFA tombent, sortent dessus pour se sucrer. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, je vous assure.
Mais est-ce que
il y a des problèmes.
Ce que disaient les joueurs, ils n'avaient pas tort, c'est ça. C'est-à-dire qu'il manquait de
oui,
moyens.
Je l'ai dit, oui, d'accord. Absolument. Parce que depuis un certain moment, ils doivent reconnaître aussi, ils l'ont dit dans leur vidéo, qu'auparavant, ils avaient même des avions spécialement mis à leur disposition. Parce que les années antérieures, quand le Niger était en paix, le premier mandat du président de la République, tous les moyens étaient mis à leur disposition. C'est l'avion présidentiel qui était mis à la disposition de l'équipe nationale du Niger. Mmh. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'au Niger, aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle. Vous la connaissez vous-même en tant que journaliste.
Oui.
Une situation sécuritaire assez exceptionnelle qui greffe les fonds de l'État. L'État est très sollicité par rapport à ces problèmes sécuritaires que nous vivons. Ce qui fait que quand nous déposons nos dossiers pour les primes, pour les moyens, pour le football, vous conviendrez avec moi que entre la sécurité et certains problèmes de santé publique, on donnera la priorité bien sûr aux autres par rapport au football. Et ce qui se passe, malheureusement, il y a un problème de ressources financières aujourd'hui qui fait qu'effectivement, l'État peine à payer les primes. Mais cela, comme je dis, il y a d'autres manières de pouvoir revendiquer quand même.
Christophe Jousset a une question, colonel Pellet.
C'est une contre-vérité.
Oui, bonjour président. La première chose d'abord, vous semblez regretter donc la manière, enfin vous regrettez la manière dont ils s'y sont pris pour porter leur cause sur la place publique. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé d'autres moyens avant pour discuter avec vous et avec les autres responsables du sport nigérien?
Oui, absolument, justement, absolument. Ce que je ne comprends pas, c'est que je dis l'arrêt de leur départ pour le match. On m'avait déjà parlé de ces soucis-là, j'étais venu les rencontrer, les joueurs en tout cas qui étaient sur place, les locaux notamment, échanger avec eux pour les convaincre. Je leur ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a les difficultés, mais faites encore le sacrifice, allez jouer. Donnez-nous des résultats sur le terrain, ça nous permettra d'avoir les arguments, nous, pour pouvoir convaincre le politique pour vous satisfaire. C'est sur ça qu'on est parti, ils ont accepté de partir jouer. Donc, à partir du moment où vous avez accepté de partir jouer, il y a eu effectivement cette déception par rapport au score. Je comprends bien qu'ils viennent même au Niger et qu'ils refusent de jouer les autres matchs. Mais ça ne sert à rien de vilipender le pays de tel sorte. Ça ne sert à rien, moi, je pense. J'ai entendu certains commentaires du camarade David Bey et autres qui parlent des fonds FIFA et autres mis à la disposition des fédérations. Il faut que les gens fassent attention et qu'ils se renseignent bien. Les fonds FIFA sont des fonds opérationnels mis à la disposition des fédérations, soit pour des projets de construction, soit pour des coûts de fonctionnement. C'est pas la même chose. Il y a des fonds qui ont été attribués par la FIFA aujourd'hui. Et on le salue beaucoup pour certains transports, pour les matchs amicaux internationaux et autres. Cette somme-là est de $300,000, s'il vous plaît. $300,000, ça fait quoi? 150 millions de francs CFA. Vous prenez un déplacement comme le nôtre sur l'Égypte, ça coûte 102 millions de francs CFA. Donc, qu'est-ce qui reste sur ce fonds FIFA-là? Parce que les fonds FIFA qu'on dit ne peuvent pas supporter.
Alors, à qui la faute? C'est à la tutelle, c'est ça? Vous dites l'administration a été inefficace et
Nous vivons certains problèmes. Nous vivons certains problèmes dus à des lenteurs administratives au niveau de la tutelle, effectivement. Parce que le dossier du match, par exemple, de l'Égypte, n'avait pas été traité avec diligence, effectivement. Ce que nous décrions nous-mêmes. Mais comme je dis encore une fois de plus, le problème, tout le monde le connaît au Niger, on a nous-mêmes tiré la sonnette d'alarme sur le fait effectivement que notre équipe nationale n'est pas dans les conditions. Ça fait 2 ans effectivement que nous ne compétitions pas dans les journées FIFA et tout. On ne peut pas sans compétition donner des résultats. Ça, c'est une réalité.
Salim Bongani a une question, président.
C'est une réalité. Pour preuve, nous avons eu des résultats antérieurs parce que nous compétitions auparavant.
Oui, oui, on se souvient de votre d'ailleurs première qualification à la CAN.
Oui, parce que le Niger a eu une période faste avec la participation au CHAN en 2011, suivie de la CAN en 2012, première participation, et de la CAN en 2013. Mais bon, 5 années ont passé et vraiment le Niger est dans le creux.
Salim Bongali.
Absolument, nous avons quand même engrangé des résultats. Nous sommes allés pour la première fois à une compétition mondiale en Coupe du Monde des moins de 17 ans. ça demande des fonds, ça demande des moyens. Nous essayons, c'est pas facile.
Colonel, bonjour Colonel Pelé. Une question, parce que vous l'avez dit, vous avez rencontré les joueurs avant leur match, justement, vous avez tenté de les rassurer, vous avez discuté avec eux. Là, désormais, qu'est-ce qui va se passer après cette vidéo? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Est-ce que vous allez les sanctionner? Moussa Mahzoul, le capitaine, les autres joueurs, que va-t-il se passer maintenant?
Mais écoutez, forcément, nous tirerons des enseignements de ça et forcément, nous tirerons. Il faudra bien qu'on prenne des dispositions. On va échanger avec eux, on verra bien. Nous n'avons pas voulu justement communiquer auparavant parce que nous attendions leur retour. Mais il faudra bien qu'ils s'expliquent. Parce que les portes n'ont jamais été fermées pour ces garçons-là. Ils savent que nous avons toujours été à l'écoute. Et oui. Le premier capitaine de notre équipe nationale, qui est le président de la République, tant qu'on l'a sollicité, a toujours répondu favorablement. Comme je dis, par contre, je le reconnais, nous sommes confrontés à des problèmes d'administration et de transmission de dossiers, de lenteur dans l'administration. C'est plus ça.
Christophe.
Oui, parce que l'avenir qu'évoque Salim, ça va venir très vite. C'est dans un mois maintenant les deux confrontations avec la Tunisie, qui est en tête de ce groupe éliminatoire et qui a gagné ses deux premiers matchs. Et puis tout ça se terminera avec la réception de l'Égypte lors de la sixième et dernière journée. Donc ce sont de gros clients. Le Niger occupe la dernière place du classement de son groupe, Colonel Pelé. Alors comment sortir de cette ornière, sachant que les difficultés financières du pays ne vont pas se résoudre miraculeusement dans le mois qui vient?
Mais écoutez, comme nous l'avons dit, nous sommes en train de discuter avec justement la tutelle et tout. Nous allons nous asseoir pour trouver des voies et moyens, pas forcément les caisses d'État. Il y a d'autres des problèmes qu'on a. Le gros problème des fédérations africaines dont on parle justement, c'est les problèmes de financement, c'est les problèmes de sponsoring. Je pense que dans notre pays, il y a des multinationales qui existent qui peuvent suppléer. Mais aussi, faudra-t-il que, justement, le politique et nous, qui sommes des dirigeants sportifs, puissions nous asseoir pour faire les réflexions, pour pouvoir, justement, amener ces gens-là à financer le football. Mais dans l'immédiat, moi, je suis convaincu que l'État du Niger fera l'effort. Je n'ai aucune inquiétude dessus. Puisque la sonnette d'alarme a été tirée, il y aura forcément un effort. Mais comment allons-nous coacher les matchs à venir? Ça, nous allons faire. Parce que le premier match, quoi qu'on le dise, je veux bien regarder les fiches techniques de nos joueurs, hein. Vous avez parlé de Mahzoul, ils ne sont pas en jambes aussi, c'est une réalité. C'est vrai que l'Égypte était techniquement largement au-dessus de nous, mais physiquement, nous avions aussi des problèmes.
Merci
donc,
beaucoup.
On va regarder les fiches techniques pour prendre les joueurs qui sont en condition.
Merci beaucoup, Président, d'avoir été en direct en Radio Foot et bonne chance au MENA, auquel on s'intéresse toujours avec beaucoup de compréhension ici dans Radio Foot International. Merci et à bientôt.
Je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous permettez. Je souhaiterais qu'à l'avenir, si les gens veulent, nous sommes ouverts, nous. On permettra à qui veut de venir voir ce qui se passe dans nos fédérations et même auditer. On vous autorise. Parce que les gens ont toujours ces clichés-là. Qui a pas de transparence dans la gestion des fédérations africaines. C'est de l'histoire passée, ça. La FIFA ne décaisse plus d'argent sans audit aujourd'hui et nous sommes ouverts, encore une fois depuis jeudi, à qui veut pour venir voir que nous faisons une gestion comme une gouvernance assez positive, assez honnête.
C'est bien entendu. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. On était en Afrique, eh bien, on y reste encore quelques secondes, Christophe Jousset, parce que on va évoquer maintenant un divorce à la gabonaise qu'on voyait venir quand même, sans doute, ces temps-ci, entre le ministre des Sports et le sélectionneur national, l'Espagnol José Antonio Camacho, a été démis de ses fonctions ce matin, et c'est eh bien après la suite logique un peu des deux mauvais résultats enregistrés par les Panthers ces derniers jours, ce nul à domicile, et puis ce match, cette défaite contre la Zambie dans un stade pratiquement désert, le stade de l'Amitié de Libreville.
Oui, le désamour avec le public du Gabon l'a atteint un peu son paroxysme. Alors le ministre des Sports du Gabon a parlé aujourd'hui à l'agence France Presse et il a dit notamment à propos de Camacho, j'ai demandé qu'on lui signifie que son contrat ne sera pas reconduit. Le contrat arrive à échéance au mois de novembre. On est encore un peu dans l'incertitude concernant les modalités de cette
fin de contrat.
De ces derniers mois. Comment ça va se passer, parce que c'est compliqué, on imagine difficilement l'Espagnol à la tête de l'équipe pour les prochaines journées des éliminatoires.
Selon certains de nos confrères, il était le deuxième sélectionneur le mieux payé du continent.
Voilà, ça, disons que c'est un élément aussi très important. On parle d'arriérés de salaire de plusieurs mois, donc il va falloir aussi régler ce problème et puis reconstruire, j'allais dire une confiance, mais la route est longue. Quand on voit les dissensions manifestes entre les joueurs et le sélectionneur, Aubameyang par exemple, qui est venu pour jouer le match éliminatoire, mais qui n'était déjà plus là pour le match amical d'hier soir contre la Zambie. Voilà, le Gabon reste quand même avec Camacho qui était arrivé. L'affaire comment ? L'histoire commençait mal, hein,
exactement.
Déjà, puisqu'il avait été nommé un mois et demi seulement avant le
début de la Coupe,
avant la CAN 2017 à domicile. L'histoire s'est mal déroulée puisque les Panthères ont été éliminés
au premier tour,
ce qui n'était pas arrivé à un pays organisateur de la CAN depuis 1994. C'est quelque chose de très rare. Et donc, on était même déjà un peu surpris quand même que Camacho soit maintenu à son poste après la CAN.
Ces statistiques en 93 semaines, hein. C'est 17 matchs, 8 nuls, 7 défaites, 2 victoires. Un peu maigre, Salim.
Ah ben ça, c'est 2 victoires à un moment donné. Et ça a été évoqué par Christophe, qu'il puisse tenir autant de temps au final, avec ce peu de résultats de la part de Camacho, c'est ça qui a quand même surpris, de voir aussi la fédération gabonaise, qui est quand même une nation qui avait des résultats, et vous l'avez bien dit, ces dernières années.
Ben en 2012, ils avaient étonné tout le monde.
Voilà, de le garder ainsi. Alors pourtant, il y a d'autres techniciens, alors européens ou pas d'ailleurs, même sur le territoire africain, on l'a vu évidemment. Enfin, c'est très étonnant qu'il soit ainsi resté là. Après, peut-être que le salaire a malheureusement contraint cela aussi.
Voilà pour ce qui est de l'Afrique aujourd'hui. On va passer au football de la Ligue des Nations.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Asensio, otro tiro de Asensio. ¡Qué gran balón de Asensio! Asensio, Rodrigo.
Une petite compilation signée bien sûr Guillaume Ploquin.
Christophe,
ça dure.
Il compte comme ça aussi les goals.
Bien sûr.
Surtout les buts, hein, quand il s'agit de, par exemple, de l'équipe de France. En tout cas, en foot, eh bien, on appelle ça une raclée, une déculottée, une volée, une piquette, une dérouillée, une démonstration. J'imagine qu'il y a encore d'autres termes, hein, qu'on pourrait donner. En tout cas, les mots humiliants ne manquent pas. Nos pauvres joueurs, eh bien voilà, on parlait du MENA, ils savent ce que c'est de prendre un 6-0. Et là, et les Croates, eh bien, les adversaires de la France, en finale, les vice-champions du monde 2018, ont été battus hier soir à Elche sur ce score très tennistique, on pourrait dire aussi, ce 6-0, comme on dit en tennis, 6-0 qui n'a évidemment pas vraiment été du goût du sélectionneur, hein, de la Croatie, Zlatko Dalic.
Je pense que nous avons bien joué les 20 premières minutes, nous avons cadré 3 de nos occasions. Après, l'Espagne a ouvert le score et nous avons commencé à sortir du match dès le deuxième but concédé. Chaque joueur a évolué de manière individuelle au lieu de rester soudés comme une équipe. Ils ont facilement atteint notre but à chaque tentative. C'est vraiment une honte de repartir d'ici avec une telle défaite.
C'est une honte. Karine, est-ce que cette gifle peut effacer un beau parcours en Coupe du Monde ?
Non, parce que évidemment, après cette dérouillée, il est obligé d'avoir un discours très dur et c'est normal, c'est jamais anodin de prendre 6 buts face à une nation, et face à l'Espagne, on peut le comprendre, mais c'est quand même compliqué. Mais après, il le sait très bien, il l'a expliqué, à partir du moment où t'as un cadre comme Mandzukic qui a arrêté la sélection et que c'est ton meilleur buteur depuis des années, c'est le deuxième meilleur buteur de la sélection croate, tu sais que tu vas avoir un déficit devant. Santini, vous imaginez bien que c'est pas du tout le même niveau que Mandzukic. Alors ok, il est en train de faire des bons matchs en Belgique, donc voilà, on est dans un autre monde. Et après, on a aussi une équipe croate qui était pas concernée. À partir du moment où elle a pris le premier but, elle a arrêté de jouer. Moi, je les avais vus lors de Portugal-Croatie, où ça avait fait finalement match nul, un but partout. On voyait que voilà. Alors là, c'était un match amical qui était très amical. Hier, c'était un match de Ligue des Nations qui les intéressait pas vraiment. Le sélectionneur fait que de dire, moi, la Ligue des Nations, ça m'intéresse pas. Je suis focus sur les qualifications pour l'Euro 2020.
Oui, mais alors quand même, Eric, on se disait, et je pense que les champions du monde savaient qu'ils étaient un peu attendus au tournant, comme les vice-champions du monde, c'est-à-dire après la Coupe du Monde, après un beau parcours, après les honneurs et tout, j'imagine que peut-être que la Croatie ou les joueurs, comme les Français, voulaient quand même ne pas être ridicules.
Oui, et ils l'ont prouvé pendant 20 minutes, sauf que les Espagnols, c'est plus du tout l'équipe qu'on a eue en Coupe du Monde, et qu'ils sont revenus avec d'autres armes et avec un autre état d'esprit, et surtout une envie de rectifier un peu cette image qu'ils ont donnée pendant la Coupe du Monde. Donc, ils sont revenus avec ces jeunes qui sont en pleine bourre et qui ont fait une démonstration de football face à une équipe de Croatie. C'est vrai qu'elle a sombré vite.
Qui est plus la même non plus,
Et peut-être qui était, surcotée sur la Coupe du Monde parce que le parcours était peut-être pas aussi difficile qu'on pensait.
Salim, il faut bien rappeler qu'il y a quand même deux équipes bien différentes. L'Espagne, déjà, il y a un sélectionneur. Je vous rappelle que Fernando Hierro, il est arrivé au début de la Coupe du Monde en pompée de service. Il n'était même pas sélectionneur pour le coup, pour ainsi être à la tête de cette équipe d'Espagne. De l'autre côté, vous avez une équipe qui a donc perdu beaucoup de cadres. Vous avez dit Mandzukic, Subasic, donc qui n'était même pas présent hier, lui aussi un cadre. Dans la Coupe du Monde, je vous rappelle que la Croatie est passée deux fois au tir au but. Ça veut dire aussi l'importance notamment de Subasic.
Et une fois autant en prolongation. Et elle était arrivée à la Coupe du Monde en passant par les barrages.
Exactement.
Il y avait beaucoup quand même de passage en force,
totalement,
on va dire, pratiquement.
Et puis, de l'autre côté, vous avez donc une équipe d'Espagne. Karine l'a vu lors du Angleterre-Espagne il y a quelques jours. Cette équipe espagnole a beaucoup changé depuis la Coupe du Monde. En tout cas, Luis Enrique a injecté du neuf. Et on voit ces nouveaux joueurs, en tout cas certains, notamment sur le côté gauche. Il n'y a plus Jordi Alba, par exemple. Et bien, on voit que ça marche très bien. Enfin, cette équipe d'Espagne-là, elle est partie pour aller très loin, c'est une évidence.
On va y venir à l'Espagne. Peut-être sur la Croatie, Christophe, ce qui peut étonner quand même, c'est haut, très haut, et puis c'est bas, assez violent.
Oui, parce que j'imagine qu'une autre équipe qui serait vice-championne du monde aurait défendu son statut, parce que elle a quand même dans ses rangs. Bon, alors j'ai regardé très précisément l'équipe qu'on a vue hier. Alors elle a beaucoup changé derrière, effectivement, avec le gardien et puis finalement Lovren n'était pas là non plus. C'était Mitrovic, Verselko, il est sorti très vite alors qu'on sait Strinic qui jouait à gauche pendant la Coupe du Monde, il n'était pas là non plus. Mais on avait quand même
Vida pas à la hauteur en plus, donc c'est dramatique après.
Et puis on avait quand même le même milieu de terrain de l'équipe type de la Coupe du Monde, hein, Brozovic, Modric et Rakitic.
Ouais, mais ça fait trop de déséquilibre par rapport à cette force du milieu de terrain qui n'était pas en plus extraordinaire hier. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui changent, il y a des hommes forts qui sont partis. Et puis si en plus vous sombrez rapidement mentalement sur un match comme ça, ça devient beaucoup de choses qui font que 6-0, c'est logique.
On a beaucoup parlé des ressources mental de cette équipe de Croatie qui s'est sortie de situation quand même pendant la Coupe du Monde qui était désespérée presque. Et alors comment expliquer cet effondrement avec un Modric qui est quand même candidat au Ballon d'Or, qui a été sacré meilleur joueur de la Coupe.
Ça joue pas là-dessus, honnêtement. Modric, moi je l'ai vu face au Portugais, je l'ai vu hier. Bon, il est pas vraiment concerné. Et franchement, on le comprend parce que lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est faire un bon début de saison avec le Real Madrid, être bon lors des matchs de Ligue des Champions et aller chercher son Ballon d'Or. Le match de hier ne compte pas dans la quête du Ballon d'Or. Qu'il fasse un bon match ou un mauvais match, c'est pas ça qui va faire qu'il va l'avoir ou le rater. Après, effectivement, de voir que les Croates n'étaient pas concernés et ont abdiqué après le premier but, ça peut gêner, mais après il y a aussi le discours du sélectionneur qui n'était pas du tout le même après le match. C'est-à-dire qu'avant le match, il t'explique que lui, c'est l'Euro 2020, la Ligue des Nations, il s'en fout, et une fois qu'il prend une raclée, il dit qu'il est très mécontent. C'est un discours aussi pour les médias.
Mais le discours est quand même gênant malgré tout, même s'il explique finalement la Ligue des Nations, ça m'intéresse pas, etc. Vous êtes quand même vice-champion du monde, à un moment donné, vous attend, une certaine image à donner auprès du public. Jamais un vice-champion du monde n'a perdu en septembre, par 6 buts d'écart. Jamais. C'est la première fois que ça arrive. Donc, c'est une humiliation malgré tout. Ça, on ne va pas, évidemment, effacer le fait d'être deuxième du Coupe du Monde. C'est un fait. Mais tout de même, c'est une humiliation absolue.
Mais en Croatie, ils auraient peut-être été aussi un peu plus sérieux. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était manque de sérieux, finalement, aussi. Je ne pense pas que les Croates soient devenus nuls en l'espace de un mois, même en ayant perdu Mandzukic. Je pense que c'est surtout, ils n'étaient pas extrêmement concernés. Ça, c'est une faute. Mais si le match avait été en Croatie, je ne suis pas sûr qu'ils auraient abdiqué après avoir encaissé un premier but.
Là, je suis d'accord parce que ils se sont remis en question, ils n'auraient pas accepté de se faire bouger comme ça chez eux. Mais il y a un facteur aussi, c'est que voilà, ils ont fini la Coupe du Monde, ils ont été jusqu'au bout, donc ils ont aussi un côté physique qui peut-être joue dessus. Et cette fragilité qui fait que les cadres sont partis, donc enfin, pas tous les cadres, mais pas mal. Donc peut-être que cet équilibre-là fait que il se sentait pas assez fort pour répondre présent contre l'Espagne.
Eric, comment justement, Christophe le rappelait, cette force mentale qu'ils avaient montrée pendant à chaque étape finalement des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Puis on se souvient du match quand même face à l'Argentine durant, les éliminatoires. Et tout d'un coup, qu'au bout de 20 minutes face à l'Espagne, certes flamboyante, et on va y venir, mais que tout d'un coup il lâche.
Il y a pas vraiment d'explication. Simplement, la Coupe du Monde, ils étaient sur une dynamique. Je pense que ça les a aidés alors il y a dynamique plus réussite, plein de choses quoi. Mmh. C'est ce qui fait une boule de neige, qui fait que vous êtes lancé et que
on est
lancé. Ouais, parce que physiquement, moi je les ai trouvés fatigués contre l'Angleterre, mais les mecs ils s'accrochaient encore et je me dis c'est pas possible, ils vont jamais tenir. En fait, ils ont tenu tout le temps. Donc je pense que cette dynamique a fait que mentalement ils avaient un plus par rapport aux autres et qui les a aidés à aller final en tout cas.
Voilà pour ce qui est donc de cette équipe. Mais est-ce qu'on peut dire peut-être, Salim, pour terminer, est-ce qu'il y a un renouvellement finalement ? Ils en sont eux aussi, comme d'autres équipes, parce que certains cadres sont partis, qu'on avait l'impression qu'il y avait une page qui se tournait, même si Modric est toujours là, il a quand même lui aussi déjà plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a un renouvellement qui va devoir être fait ?
Mais devoir, oui, puisqu'encore une fois, on l'a dit, il y a certains cadres donc qui ne sont plus là. Le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'il y a une génération jeune croate aujourd'hui. Quand on voit les tournois de jeunes, j'entends par tournois de jeunes, espoir, moins 19, voire même moins 17, les Croates ne vont pas forcément loin. En tout cas, ces dernières années, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas forcément, comme ça, de visu, une très grosse génération de jeunes. Il va falloir plutôt compter une nouvelle fois sur cette génération actuelle pendant encore 2 ans et espérer peut-être qu'une génération jeune arrive. Ça va peut-être être compliqué dans les années à venir.
Oui, mais après, le sélectionneur expliquait quand même que des joueurs qui étaient déjà existants dans le groupe devaient prendre aussi une importance supérieure. Voilà. Piaka, c'était pas un joueur majeur de la sélection, il doit le devenir. Pareil avec Kovacic, qui jouait pas forcément tout le temps et qui doit devenir un leader. Il le disait aussi pour Pazalic. Donc c'est des joueurs qui existaient déjà dans le groupe croate et qui aujourd'hui doivent être les tauliers. Donc ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il disait, moi je pense que d'ici 2 ans, on aura des joueurs qui étaient déjà là mais qui n'avaient pas un rôle essentiel, et dans 2 ans ils devront l'avoir pour que ça puisse tourner et que voilà, il n'y ait pas une Coupe du Monde et un raté derrière lors de l'Euro.
Luka Modric, c'était pas un match qui compte pour le Ballon d'Or, Eric?
Moi, je pense que tous les matchs comptent. Après, j'avoue que il peut y avoir des matchs où vous êtes moins bien, et certainement peut-être physiquement il se sentait peut-être moins bien, donc il a été moins rayonnant, mais j'ai du mal à croire qu'on choisisse ces matchs. Et que non, je pense qu'il a raté son match un peu comme toute l'équipe quoi. Il était dans le mauvais
move. D'accord. Exactement. Alors pour ce qui est de l'Espagne, eh bien on l'a entendu tout à l'heure, hein, Arriba Espagna avec ses 6 buts, les Espagnols alors privés de fête mondiale en Russie, on se souvient des circonstances très particulières. Ils reviennent très fort, ils ont battu l'Angleterre à Wembley, vous y étiez Karine, et on va y revenir. C'était lors de leur première sortie sous la direction de Luis Enrique, l'ancien Barcelonais, et hier soir, il y a eu cette pluie de buts, de quoi donc satisfaire n'importe quel sélectionneur.
C'est une victoire spectaculaire que nous ne pouvions pas imaginer du tout. Même avec un autre résultat, je dirais que nous sommes dans une bonne dynamique. C'est mieux de démarrer de cette manière. Les joueurs savent à quel point ils sont bons, mais nous devons faire face à tous les matchs, car chaque rencontre est difficile. Je pense que si nous jouons de cette manière, ce sera compliqué de nous arrêter.
À ce niveau d'effectivité et avec cette qualité dans les mètres finales, c'est très difficile pour nous.
Luis Enrique qui a été ovationné, hein, adoubé d'entrée par la aficion du Stade d'Elche. Est-ce que c'est une surprise, parce que on se souvient des circonstances quand il a été nommé avec cette déshérence un peu pendant la Coupe du Monde. Luis Enrique qui était il y a pas si longtemps avec un club et qui a eu des beaux résultats avec Barcelone. C'est rapide, c'est trop rapide.
Non, mais moi je trouve que c'est dans la lignée en fait. On est évidemment.
Il en était presque gêné. Hein. Il a dit j'ai un peu honte que le stade chante mon nom.
Il n'y a pas de raison. Après, lui, il a un parcours particulier parce qu'il a joué au Real et il a joué au Barça. Mais après, il a fait des belles choses avec le Barça. Mm-hmm. Hormis Jordi Alba qu'il déteste. Et que c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y avait pas de raison de le huer. Après, on sait que c'est un sélectionneur et un entraîneur qui était assez dur. Et il a remis justement des lignes directrices dans la sélection espagnole qui resserre un petit peu tout. Et c'est bien. Mais même Sergio Ramos l'a expliqué. Il a dit, voilà, nous, c'est notre sélection. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. Il y a un moment, si c'est le mec qui te fait gagner, les gens, ils sont derrière lui.
Et quand vous êtes un coach, déjà qu'il y a eu des résultats, puisqu'il en a eu avec l'équipe du Barça, le championnat, coupe, etc.
Bah, c'est son crédit déjà.
Ouais, exactement. Et les joueurs vous respectent tout d'un coup. Donc même ceux qui n'étaient pas sous la direction, même ceux du Real vont dire, ouais, c'était celui qui nous embêtait là, lorsqu'il était à la tête du Barça, pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Donc à un moment donné, oui, il y a du respect forcément qui se dégage de lui. Et quand vous voyez le jeu pratiqué face à l'Angleterre pendant la première période notamment et hier, le respect ne peut que s'accentuer.
Eric, bon sélectionneur.
Je pense, en tout cas, il a trouvé la formule qui marche déjà. Et contre l'Angleterre, il y avait un peu de réussite parce que l'Angleterre avait quand même les moyens de revenir.
Derrière était énorme.
Et voilà. Donc c'est mais aussi parce que voilà, comme on disait tout à l'heure sur une dynamique. Voilà, ils ont fait un bon résultat contre l'Angleterre. Derrière, bon, bah il y a les circonstances qu'on connaît, mais voilà, eux ne calculent pas. Ils jouent. Ils sont sur avec une équipe de jeunes qui a envie de tout fracasser. Et c'est le cas. Enfin, ça a été le cas hier en tout cas.
Et puis il y a pas non plus une révolution parce que l'ADN de l'Espagne, tu le vois, c'est notamment le jeu, face aux Anglais, tu voyais que techniquement ils étaient largement au-dessus des Anglais, ils ont la qualité. Alors, il y a plus de vitesse, il y a plus de jeu direct parce que Luis Enrique aussi, il le voulait avec le Barça, mais c'est pas une découverte totale pour les joueurs espagnols, ils se retrouvent pas face à des choses exceptionnelles.
Mais c'est ça en fait qu'il a réussi à imprimer, c'est ce toqué est très bien, mais ce jeu vertical, il a réussi à le mettre en place comme il avait fait au Barça.
Exactement, justement. C'était sa mission au Barça.
Et aussi quand même face à l'Angleterre.
Et
il a les joueurs, mais face à l'Angleterre et donc hier, vous n'avez pas Diego Costa en pointe, là lui qui est attendu par exemple, vous avez un Rodrigo et ben ça fonctionne quand même. C'est aussi ça qui est quand même impressionnant, c'est de voir que vous pouvez remplacer un joueur A par un joueur B et ça fonctionne.
Alors justement sur l'effectif, parce qu'il y a eu des nouveaux qui sont apparus dans cet effectif. On a Asensio qui est pas un vrai nouveau mais qui devient de plus en plus titulaire.
Une étoffe,
voilà, exactement.
Il doit de toute façon forcément prendre une part plus importante dans le jeu de l'Espagne et c'est ce que lui demande.
D'ailleurs, on attend ça de lui au Real cette année, donc
aussi,
c'est très important.
Oui.
Asensio, il y a Saúl aussi
déjà, donc
effectivement.
Il est
Et il y a Saúl aussi, par exemple.
Saúl Niguez, Rodrigo, donc, qui a été pris. Oui. Et puis, les d'autres deux joueurs qui ne sont plus là, désormais, donc, faut les remplacer. Pour l'instant, ils ont été bien remplacés. David Silva qui n'est plus là, Iniesta qui n'est plus là. Et au final, on l'a vu au milieu, encore une fois, il y a une maîtrise aussi qui se dégage. Enfin, c'est pour ça que je suis impressionné.
Oui, mais c'est encadré par, t'as encore Busquets qui est là, t'as Ramos qui est derrière. Donc, il y a des cadres qui sont là aussi pour être solides sur le côté défensif. Et après, leur permettre de jouer offensivement.
Après, on va me dire, à juste titre, on a justement, il y a quelques instants, critiqué l'équipe de Croatie. Donc, on va pas s'emballer, c'est un fait.
Oui.
Mais il y a déjà un bon début quand même, réussir à marquer 8 buts en 2 matchs comme ça, ça vous démontre et vous dénote certaines.
Parce que même on parlait justement de Rodrigo, effectivement, moi quand j'ai vu le 11 de départ contre les Anglais, j'étais surprise que ça soit pas notamment Morata qui soit aligné. Mm-hmm. Et puis finalement, il a mis d'autres choix, j'ai pas trouvé que c'était non plus exceptionnel Rodrigo par exemple face à l'Angleterre.
Il est bon en club aussi, je pense, je suis d'accord avec toi, il a pas été extraordinaire.
On peut pas dire ça y est, c'est la solution, etc. De toute façon, c'est Diego Costa qui reste le numéro 1. A priori, là, il n'était pas là parce qu'il y avait des problèmes personnels. Mais de toute façon, ça tournera parce que la qualité, elle est là et parce que les joueurs, ils se regardent les yeux fermés et puis il n'y a pas de problème. Face à l'Angleterre, il y avait un monde entre les Anglais et les Espagnols. Pourtant, c'est les Anglais qui ont fait la plus belle Coupe du Monde entre les deux. Mmh. Mais techniquement, il n'y avait pas photo.
Mais on sait très bien que celle des Espagnols a été sabordée.
Moi, c'est ce que j'ai dit. On en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, avant le changement d'entraîneur, avec les résultats qu'ils avaient fait, les matchs qu'ils avaient fait avant la Coupe du Monde, je les voyais presque favoris pour
ils étaient parmi les favoris.
Ils se sont tirés une balle dans le pied
c'était quand même le président de la fédération qui était à l'origine de tout cela.
Ça se finit par une élimination au tir au but contre la Russie
en huitième de finale.
Oui.
J'y étais.
Sergio Ramos, parlez-nous de ce défenseur Sergio Ramos. Quel patron quand même, quel homme. Non mais il est toujours là, on le voit avec le Real et il gagne lui aussi. Il contribue beaucoup à ses victoires en Ligue des Champions. Et là, on se retrouve avec un Sergio Ramos pareil en équipe espagnole. C'est le patron.
C'est le patron. C'est lui qui tient la baraque, comme on dit. Et il a ce caractère pour transcender tout le monde autour de lui. Il a ce caractère pour faire transformer un score pendant un match ou être décisif sur un corner ou sur une montée. Il engendre tout ce qu'il faut pour amener les jeunes vers l'avant et donner une dynamique à cette équipe et il le fait déjà au Real, donc il a rien changé, il a juste utilisé ce qu'il sait faire.
Juste, lui.
Voilà, exactement.
Non mais Karine. Il est exceptionnel. Moi, je suis scié de voir le Ramos bashing depuis notamment l'histoire de Salah qui pour moi n'en est pas une, mais c'est incroyable comme il est au rendez-vous. Par exemple, face aux Russes, ok, ils sont éliminés, il est au rendez-vous, il assure et il est en train de cajoler tous ses coéquipiers qui sont dévastés. Tu vois, face aux Anglais, il fait un très gros match, il est hué à chaque fois qu'il touche le ballon. On aurait dit qu'il n'y avait que des supporters de Liverpool à Wembley parce qu'à chaque ballon, il était hué. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque ballon, il était hué, il était de plus en plus bon.
C'est-à-dire que ça le transcende.
Mais ça le transcende. Il faisait des transversales, elles arrivaient toujours aux joueurs qui étaient cherchés. Il a fait un match ultra propre. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait par contre? Il est allé en conférence de presse pour dire ses quatre vérités en disant j'ai été menacé de mort, ma famille, mes enfants aussi, mais sur le terrain il répond toujours présent. Moi je suis
c'est un compétiteur né,
bien
en fait.
Sûr, mais
c'est pour ça qu'il est comme ça, en fait. C'est pour ça qu'il répond présent.
Il s'arrête jamais. Piqué a décidé d'arrêter la sélection, il a tout gagné à Ramos, il deviendra sûrement le joueur espagnol le plus capé. Il a toujours faim et pour lui un match est toujours important. C'est pas par exemple comme on a pu voir, parce que moi je pense que Modric vraiment face aux Portugais, face aux Espagnols, il n'était pas vraiment concerné par l'idée de faire un gros match. Ramos, ça n'existe pas chez lui.
Et ce qu'on se disait en préparant l'émission, Christophe, c'est que Ramos, malheureusement, il sera jamais sur la liste du Ballon d'Or.
Oui, oui.
Alors qu'il pourrait, pourrait un peu. On parlait de.
Il marque un peu plus. Déjà, qu'il marque de temps en temps.
Attends, il marque beaucoup.
Non, surtout,
ouais,
surtout. Ce qu'il a fait au défenseur hier pour lâcher le marquage, là, c'est quand même. Enfin, et à chaque fois, ça marche. Donc, ça aussi, c'est impressionnant parce que il est loin de son rôle. Il dépasse sa fonction.
Et Sergio Ramos qui a obtenu il y a quelques jours, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, le titre de meilleur joueur européen de la saison, défenseur de la saison, pardon. Donc, oui, on sait que déjà en tant que défenseur, c'est l'un, si ce n'est le meilleur du monde, tout simplement.
Ah oui, mais ça fait des années de toute façon, et il est toujours régulier, il n'y a jamais de trou. Alors que Piqué, lui, c'était quand exactement. Même les montagnes russes, lui, c'est une valeur sûre.
Il avait l'admiration sans borne de Philippe Zegraf, qui toujours aimait, disait, apprécier justement ce défenseur qui jamais ne se fatiguait, jamais se lassait et ne lâchait pas de match. Un petit mot sur l'Angleterre, Salim Ongali, cette Angleterre. Alors,
quasi champion du monde.
Quasi, oui. On s'en souvient très bien, justement. Elle a terminé quatrième, si je ne m'abuse, battue dans la petite finale par la Belgique. Parce que là, l'Espagne, finalement, donc, qui a un peu tout raté, mais qui bat l'Angleterre, qui bat la Croatie, qui ont fini beaucoup mieux qu'elle en Russie. Que dire de cette équipe qu'on voyait nouvelle formule avec cet entraîneur au beau gilet qui se vend bien.
Alors faut bien quand même rappeler ce qu'a fait l'Angleterre durant le mondial. Déjà, l'Angleterre, malgré tout, n'a gagné que 3 matchs. Durant le mondial, hein, même si on est arrivé en demi-finale, oui, je dis on, oui, je suis sûr d'Angleterre.
C'est bizarre, tiens.
Il n'y a eu que 3 victoires pour l'équipe d'Angleterre. Pourquoi? Parce que on se base du côté anglais sur une excellente défense, effectivement, avec cette défense à 3, avec ces deux latéraux qui cavalent. C'est très bien. Mais au final, et ce bon gardien aussi. Mais au final, offensivement, et on a vu quand même les difficultés de l'Angleterre tout au long de cette saison, même avant la Coupe du Monde. Alors vous allez me dire, face à l'Espagne, il y a eu des opportunités, très bien.
Mais Rashford, le problème, c'est qu'il a fait briller De Gea.
Ah oui. Et De Gea, c'est la première fois cette saison qu'il a été bon quand même, hein, parce que depuis le début de saison, il a été catastrophique avec United, et là, il a été monstrueux. Mais l'équipe d'Angleterre, elle est encore en phase. Alors je vais pas dire expérimentale, c'est pas le bon terme, mais c'est une montée en puissance vraiment subtile. Faut attendre. Alors je sais pas si c'est sur cette Ligue des Nations qu'on va le voir, sans doute pas, mais plus à l'Euro. Faut attendre et voir l'Euro pour comprendre et voir ce que vaut cette équipe d'Angleterre. Pas avant, parce que hier typiquement, vous aviez un défenseur de Burnley en défense centrale, un défenseur de Leicester et un arrière droit qui jouait en défense centrale, Skywalker qui évoluait en défense centrale. Enfin, expérimental au combien, donc on va se calmer sur l'équipe d'Angleterre et attendre malheureusement.
Non, mais justement, je voulais, on en est un peu, on sort de la Coupe du Monde, on a cette compétition Ligue des Nations qui permet de faire des matchs qui ne sont pas que amicaux, et du coup, on jauge un peu l'après-Coupe du Monde.
Et le problème, c'est que l'Angleterre est dans le groupe de la Croatie et de l'Espagne, on va dire clairement, l'Espagne est évidemment au-dessus, la Croatie, bon, à voir, hein, au final, faudra attendre le match aller-retour face aux Croates pour voir ce que vaut l'Angleterre, mais aujourd'hui, ça reste une équipe qui a eu beaucoup de réussite lors de la Coupe du Monde, qui n'a gagné encore une fois que 3 matchs. Donc faut vraiment, vraiment, malheureusement, j'ai envie de m'emballer, mais je vais sûrement pas le faire.
Christophe.
Alors ça me rappelle une histoire, il y a 20 ans, après la Coupe du Monde 98, donc les Français étaient champions du monde, et j'étais allé couvrir à Wembley le match Angleterre-France, et il y avait à la télé un spot qui passait la veille du match, qui disait « Demain, à Wembley, la meilleure équipe du monde sera là ». Et l'écran suivant, c'était « La France sera là aussi
bon. ». Ouais, et je l'ai dit pas,
non, mais ils sont bons.
Voilà. Est-ce que vous avez acheté un gilet à la mode Southgate?
Ah ben évidemment, ça c'est obligatoire.
Mais il l'avait pas vendredi soir. Non. C'était samedi soir d'ailleurs. Exactement. Samedi soir à Wembley, il l'avait pas. Ouais, parce que j'ai regardé et tout, il avait fait ça. C'est beaucoup mieux sans le gilet d'ailleurs.
C'est le gilet porte-bonheur des résultats de son équipe.
Ça lui va très bien sans, il est très élégant, il a pas besoin de ce gilet-là.
Mais pareil, encore une fois, pour l'Angleterre, il y a des cadres aussi qu'on doit retrouver un peu plus. Alors, vous allez me dire, Harry Kane a eu ses 6 buts que Carey n'a pu rencontrer après le match. Alors, c'est très bien Harry Kane, mais les 6 buts en question,
il y a beaucoup de
la réussite quand même, voilà, pour l'attaquant.
Ah ouais,
donc là encore, il va devoir
décisif très dans bien les grands matchs
et dans le jeu, j'ai envie de dire, Harry Kane, c'est là où on l'attend. Et avec l'équipe d'Angleterre, il n'est pas encore.
Eric, c'est pas facile de marquer un pénalty.
Non, c'est pas facile de marquer. Non, mais moi, je vous trouve un peu dur quand même, même si on s'emballe pas. Voilà, mais moi je la trouve pas mal cette équipe d'Angleterre. Hein. Elle est pas encore au top, mais j'ai trouvé qu'il y a des choses intéressantes et que justement ça annonce des choses qui devraient donner des.
Alors peut-être la seule chose où l'Angleterre est peut-être la meilleure du monde, c'est sur les coups de pied arrêtés. Je crois à chaque fois qu'il y a un corner, il y a un danger. Donc ça au moins c'est bien travaillé avec Harry Maguire. Et c'est quasi 100 kilos qui s'élève au second poteau et qui à chaque fois attrape la balle, il pèse 100 kilos. Hein, c'est impressionnant.
C'est ça.
Harry Maguire, le défenseur de Leicester, il a perdu 5 kilos. Donc c'est pour ça qu'il est à 100 kilos désormais. Et c'est pas une blague, c'est véridique.
Il avait marqué pendant la Coupe du Monde.
Il avait marqué pendant le Mondial d'ailleurs. Mais voilà, c'est très bien d'être bon sur les coups de pied arrêtés. Il faudrait l'être dans le jeu aussi.
Allez, un petit tour entre l'Angleterre et le Brésil, vous allez comprendre pourquoi.
Jogada em cima do Richarlison, veio o Brasil, bola batida pro gol, Neymar pedi aqui embaixo, Richarlison, gol do Brasil, Richarlison. Desistiu, voltou ainda, bateu Richarlison! Gol! De novo! Do Brasil!
Et de novo, comme on dit du côté du Brésil, de novo, eh bien, encore un score fleuve hier, puisque c'était cette nuit d'ailleurs, ce 5-0 du Brésil contre le Salvador. Alors, on a vu évidemment tout le monde un peu briller. Tite était content de son effectif après la victoire contre les États-Unis 2-0 qui avait fortement déplu à Donald Trump. Eh bien, voilà qu'ils ont marqué, ils ont gagné à Washington. On a vu un nouveau apparaître sous le maillot, alors que il y a 8 ans aux États-Unis, Neymar faisait ses débuts, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est aussi en territoire américain que Richarlison, comme il faut apprendre à le dire, Richarlison a inscrit 2 buts hier, et c'est un joueur que vous connaissez particulièrement, que vous avez déjà observé, disons, Salim, parce que il fait partie des Toffees, il est du côté d'Everton.
Exactement, lui qui est arrivé cet été en provenance de Watford. Lorsqu'il est arrivé cet été, pour une somme importante, hein, plus de 40 millions d'euros.
C'est Everton et Richarlison.
C'est ça. Non, et c'est pour mignon. 40 millions d'euros, on s'est dit, que fait Marco Silva, qui était l'ancien entraîneur de Watford, donc il entraînait Richarlison. On disait, bon, 40 millions d'euros, c'est quand même un peu élevé. Il avait bien démarré la saison dernière avec 5 buts marqués en début de saison. Et puis ensuite, sur les 26 journées suivantes, il n'avait pas marqué un seul but. Donc on disait, ça fait partie de ces joueurs qui démarrent bien, puis qui ensuite s'arrêtent. Il le prend, il arrive à Everton, il marque 3 buts en 3 matchs, donc plutôt bien. Dans le troisième match, il se prend un carton rouge direct pour un petit coup de tête donné. C'est pas bien, 3 matchs de suspension. D'ailleurs, il est suspendu ce week-end. Il est appelé en sélection brésilienne. Premier match, il entre en jeu. Deuxième match, il est titulaire avec le numéro 9 quand même, qui est un numéro symbole au Brésil. Il marque un doublé. Enfin, son histoire est fantastique quand même. Il y a que 21 ans au final, Richarlison. C'est ça qui est impressionnant quand même.
Vous l'aviez déjà repéré, on va dire,
non,
Eric,
non, avant. Non, j'avais pas vu, mais c'est vrai que là, sur le premier but qu'il met, déjà, il est magnifique, hein, franchement. Mais c'est un peu l'histoire du Brésil, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des joueurs comme ça qui sortent du jour au lendemain. On se dit, mais c'est incroyable, ils ont un réservoir incroyable. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment impressionnant.
Et il y avait là, il était donc à Watford. Il y avait plusieurs clubs turcs qui lui proposaient des salaires énormes, notamment Fenerbahçe qui le voulait absolument, qui lui proposait deux fois ce qu'Everton lui donne aujourd'hui, puisqu'il a plus de 3 millions de livres par an, en l'occurrence, qui est assez énorme quand même pour un joueur qui reste moindre, entre guillemets, par rapport aux grandes stars. Maintenant, il a préféré rejoindre son ancien entraîneur. Et aujourd'hui, il est, encore une fois, cet attaquant d'Everton, type et clé de cette formation.
Oui. De toute façon, l'équipe du Brésil, c'est vrai qu'elle manque pas de buteurs, en général. Et ce qu'on remarquait, Christophe, c'est Neymar. Neymar qui est pratiquement au record de Ronaldo, là, avec, il a marqué sur penalty, lui, hier soir, dans les 5 buts. Et donc,
c'est pas mal pour Richarlison d'être entouré par Neymar comme ça. Vous savez que les ballons, vous les recevrez, si besoin est. Donc, et en plus, Neymar qui est là pour les records. Enfin, cette équipe du Brésil, on va la surveiller tranquille. C'est vrai que pendant le mondial, il y a eu aussi la Belgique. Ça n'a pas été forcément bien réalisé. On a vu cette élimination de la part des Brésiliens. Mais on va l'observer quand même pendant 2 ans, cette formation.
On peut pas condamner une sélection comme ça avec autant de talent parce qu'ils ont raté leur Coupe du Monde. Non, ils seront là au fur et à mesure, mais ils ont besoin de retrouver un peu de stabilité et surtout de retrouver des cadres qui tirent l'équipe. Parce que Coutinho a tiré l'équipe en Coupe du Monde, pas trop Neymar.
Thiago Silva aussi.
Donc on a besoin de retrouver un équilibre. Ben c'est cet équilibre qu'a le Brésil habituellement.
Oui, ce Brésil qui va recevoir toute l'Amérique du Sud, on va dire, puisque 12 des pays participent à la Copa América. Ça sera l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est un défi toujours quand on joue à domicile, d'autant plus pour une équipe comme le Brésil.
Ouais, il y a beaucoup de pression. On sait bien qu'il y a de la pression pour le Brésil quand il joue à domicile, mais en plus la Copa América est jamais facile. Donc ça va relever encore le niveau.
Après, il y a pas non plus vraiment d'inquiétude. Moi, je trouve que sur leur Coupe du Monde, si on regarde déjà le match face aux Belges, la deuxième mi-temps, ils la dominent largement.
Et ils sont réveillés
au final,
trop tard.
Ils sont éliminés et il y a aucune contestation. Mais dans le contenu et dans leur réaction, elle était bonne. Après, Thiago Silva, il était vraiment de retour comme un patron et ça faisait du bien parce que le Brésil en avait besoin. Coutinho a été très bon et Neymar, ok, sa Coupe du Monde, elle a été ratée, mais enfin, il n'était pas à 100%. Des raisons aussi à cette Coupe du Monde mitigée de la part de Neymar, alors qu'il avait été étincelant les semaines avant cette blessure, et il avait été très bon en sélection avant sa blessure.
Juge complète par rapport à la Copa América, donc l'année prochaine, ça fera 12 ans que le Brésil ne l'a pas remporté. Vous avez le Chili qui l'a remporté deux fois. À un moment donné,
l'Argentine qui aimerait bien.
Voilà, il va falloir que le Brésil se montre à un moment donné, et surtout à domicile. C'est la compétition, elle vient donc juste après la Coupe du Monde 2014, en quelque sorte, la dernière grosse compétition avec l'humiliation qu'on connaît. Donc le Brésil se doit en fait de la gagner, elle ne peut pas faire autre chose.
Et dans un mois, il y aura un match amical intéressant parce qu'il n'est jamais amical, ça sera entre le Brésil et l'Argentine. Et là, on verra ce qui peut se passer. Pour terminer, juste une petite anecdote. Hier soir, c'est Georges Weah qui a rechaussé les crampons, qui a joué 79 minutes dans un match amical. Mais je voulais juste...
Voilà. Un petit triplé.
Eric, vous pourriez jouer 79 minutes encore?
Là, à l'heure actuelle, non.
Et marquer un triplé comme lui? Lui, il a marqué.
Je voudrais que vous nous racontiez cette anecdote.
Triplé en marchant, peut-être, mais.
L'anecdote délicieuse que vous nous avez livrée tout à l'heure. Votre premier match contre Georges Weah.
Premier match, j'avais 18 ans et j'étais avec Nancy. Je venais à Monaco pour jouer. Et je suis arrivé, il y avait soleil, il y avait tout ce que vous voulez. Donc j'ai passé l'après-midi sur le balcon, à bronzer. Je suis arrivé le soir, j'ai joué contre Weah, il a mis 3 buts. Et je crois qu'il a donné le quatrième. On a perdu 4-0. Et j'ai dit, je crois qu'il faut que j'arrête les... À Monaco, c'est fini, j'irai plus sur le balcon, ça va pas
les
le faire.
Bains de soleil.
Plus de bains de soleil. Et Georges Weah, vous l'avez à peine vu passer.
Extraordinaire. Avec Rui Barros devant, ils étaient tous les deux, ils étaient incroyables à cette époque-là.
Une grande époque de l'équipe de Monaco et donc un grand moment finalement comme quoi vous l'avez croisé.
C'est une anecdote, je la prends. Voilà.
Il s'en souviendra.
Oui, parce que c'était pas au Paris Saint-Germain, mais non. C'était plus drôle. Eh bien, c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation. On se retrouvera demain pour continuer à parler évidemment de football sur RFI. Merci beaucoup, merci à tous.